Voix enchantées, l'émission qui donne la voix à de jeunes écrivains amateurs passionnés par l'art et sensibles à la beauté. Une fois par mois à 18h sur Radio Campus Paris. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Emmanuel, qui est actuellement en master à Dauphine, après avoir fait des études d'allemand, si je ne me trompe pas.
Salut, ouais, c'est exactement ça.
Et tu veux nous en dire un peu plus ou pas ?
Oui, j'ai commencé mes études à Bordeaux et puis j'ai bougé à Paris ensuite. J'ai d'abord fait beaucoup d'allemand et ensuite j'étais plutôt en affaires internationales à Dauphine avec plein de matières économiques et financières.
Choix de l'artiste. Comme chaque mois, je demande à l'invité de nous parler d'un artiste qui le touche particulièrement ou qui l'intéresse tout simplement. Emmanuel, de qui vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je pense que je vais vous parler du célèbre Booba. Alors je pourrais commencer en disant que Booba est l'artiste que j'ai le plus écouté de ma vie, je pense. J'ai dû commencer à l'écouter à mes 12 ans et aujourd'hui je l'écoute toujours. C'est un artiste avec lequel du coup j'ai tissé des liens musicaux et finalement vécu une vraie relation avec ses hauts et ses bas, avec une période où je l'écoutais beaucoup moins et aussi d'autres périodes où je l'ai redécouvert, où j'ai réécouté ses anciens albums comme Mauvais Oeil de son groupe Lunatique.
Et il y a un album qui, toi, t'as le plus marqué dans sa carrière musicale ?
Alors oui, il pourrait y en avoir plusieurs. J'ai adoré notamment les intros. Les chansons introductives de ses albums, c'est 09 et West Side, qui sont des albums où il était un peu plus jeune. Mais voilà, un album que j'ai écouté et réécouté, c'est Mauvais Oeil de Lunatique.
Et qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans l'écriture de Booba, je dirais, ou pourquoi Booba en tant que rappeur ? Plus qu'en tant que personnage public, mais en tant que rappeur vraiment dans son style, dans son flow.
Déjà, son écriture est très... Booba, c'est un vrai écrivain, c'est un vrai poète. C'est quelqu'un qui écrit beaucoup, qui a écrit pour d'autres... Alors qu'on sait que dans le milieu du rap, énormément d'artistes chantent seulement. Et puis avant le rap, d'autres artistes faisaient pareil. Céline Dion, par exemple, écrivait peu ses textes, il me semble. Dans son style d'écriture, je dirais que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que Booba est incisif. C'est quelqu'un qui attaque. Il est dans l'ego trip, c'est un mot assez important dans le rap, où il parle en son jeu, quoi.
Il se met en scène aussi.
Il se met en scène énormément et il est très incisif envers les autres, que les ills soient déterminés ou indéterminés. Et puis la seconde chose, c'est que voilà, il a des métaphores bien à lui. Il a une vraie vision de la vie, des phrases un petit peu bateau pour dire que il écrit très bien. Et là, par exemple, je pense à quelque chose, c'est sa chanson Pitbull, qui est une super chanson, où il a une phrase assez marrante. Il dit « Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne ?» Donc c'est à la fois drôle, à la fois ça fait réfléchir, à la fois ça peut juste surprendre.
Et est-ce que toi, ce côté incisif, attaque, des fois qui tombe dans la vulgarité aussi, comme beaucoup de rappeurs, toi pourquoi ça te touche ? Enfin, je sais pas, est-ce que des fois il y a des chansons de rap, et en l'occurrence des chansons de Booba, des morceaux, qui peuvent te tirer des larmes par exemple ?
Je dirais que ça me touche parce que c'est comme dans le foot, on dit que la meilleure défense c'est l'attaque. Et ma philosophie de vie c'est d'être plutôt proactif. Pour utiliser un terme de management milieu dans lequel je baigne. Donc il y a ce côté-là, on va dire, de mode de fonctionnement que j'aime bien, qui est en fait à la fois de l'anticipation et de l'action, quoi. Donc je trouve ça assez noble, même si Booba, il peut complètement dériver trop parfois.
Coup de cœur musical. Emmanuel, c'est maintenant le moment de ton coup de cœur musical. Peux-tu nous annoncer le nom de l'artiste et le titre de la chanson ?
J'ai choisi l'artiste Meryl et sa chanson Coucou. Coucou, lala, la tête, les fesses et la moula. Elle a tout, ça te fait le château et partout, guili guili.
En quatre. Ne lui dis pas comment faire, sa madame est indépendante. Sa position est basse, mais c'est elle, elle a la cote. Les mêmes posées sur le bassin, autour d'elle, tout le monde se tape. Oh là là, les cadres, les bandits dos en bas des blocs. Oh là là, sa wine est classique, elle a mis tout le monde d'accord. Oh là là, libérez-la même dans les plus grandes vallées de mort. C'est Dieu qui l'envoie, on ouvre la bouche seulement pour dire merci. Faut la laisser faire, elle aime la vie. Pas qu'il tape, y'a la oui, ah oui. C'est Elle danse comme une rafale de balles, elle me cesse sur le terrain. Elle fait rouler les mécaniques, elle fait marcher les ménages. Elle se fait traiter de salope par celles qui ne pourront jamais faire ça. Les cadres, les bandits dos en bas des blocs. Oh là là, ça ouais, une classique, elle a mis tout le monde d'accord. Oh là là, libérez-la même dans les plus grandes vallées de mort. C'est Dieu qui l'envoie, on ouvre la bouche seulement pour dire merci. Faut la laisser faire, elle aime la vie. Paquita, biya la oui, ah oui. C'est papa qui donne, on dit merci.
Perfect.
Coucou la la, la tête, les fesses et la moula. Elle a tout, ça te fait le château et partout guili guili.
Coucou la la,
la tête, les fesses et la moula. Elle a tout, ça te fait le château et partout guili guili. Coucou la la, la tête, les fesses et la moula. Elle a tout, ça te fait le château et partout guili guili.
Alors cette chanson, je l'ai choisie non pas parce que c'est une chanson particulièrement émotive et profonde, c'est plutôt un tube quoi, donc ça c'est le genre de truc que tu mets en soirée, c'est sympa, c'est dansant et tout, il y a un petit rythme reggaeton, donc ça marche bien, et je l'ai choisie parce que j'ai trouvé ça tout simplement assez excellent en termes musical. C'est comme ça que j'ai découvert cet artiste aussi, Meryl, par ce tube. Donc voilà, dès que j'ai su que c'était elle, bah, je suis allé écouter d'autres chansons. Et voilà, aussi parce que la scène féminine du rap a été, fut un temps, moins fournie, et que là, de plus en plus d'artistes féminines explosent. Tout le monde connaît Chilla, en tout cas parmi les gens qui écoutent du rap, ou Shy, qui est excellente aussi dans un autre registre. Meryl, c'est encore quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, ces trois femmes-là ont des styles très très différents et des manières d'être en tant que femme dans le rap très très différentes aussi.
Et comment tu définirais celle de Meryl, par exemple, sa manière d'être, de se présenter au monde ?
Eh bien, Meryl a un truc beaucoup plus, finalement, beaucoup plus Kyra, davantage dans la provocation ou dans le franc-parler ou peut-être pas dans la violence mais dans quelque chose de plus neutre si on devait genrer un petit peu sa manière d'écrire et de chanter. Tandis que par exemple Shy va être beaucoup plus dans des cases féminines qu'on connaît déjà, à jouer peut-être davantage sur sa sensualité, alors que Meryl joue beaucoup moins sur sa sensualité.
J'ai l'impression qu'il y a pas mal de rappeuses qui n'ont pas envie d'être mises dans la case de rappeuses, justement. Mais juste, elles font du rap et c'est des artistes et elles n'ont pas forcément envie d'être tout de suite catégorisées en tant que femmes qui font du rap. Tu penses que c'est le cas de Meryl ou pas ?
Dans ses sons, Meryl, en effet, ne porte pas particulièrement et de manière déclarée une voix féminine. Elle rappe. Et en fait, peut-être que... elle fait le choix de faire comme si c'était normal. Et du coup, c'est bien. Parce qu'on pourrait dire aussi que par ce mécanisme de pensée qui est un peu la discrimination positive, où on va dire, là, une femme rappe, promouvons ses chansons, etc., parce que c'est une femme, et ben là, elle, Meryl, en fait, elle arrive, elle pose son truc, elle se casse, quoi. Et voilà, elle dit pas bonjour, quoi, elle s'en fout.
Partage de texte. C'est maintenant le moment pour toi de nous lire un texte que tu as écrit. Est-ce que tu peux nous le contextualiser un petit peu ?
Alors, à mes heures perdues, ça a pu m'arriver de m'amuser à écrire des articles culturels. Et là, en l'occurrence, c'est un article que j'ai écrit qui se base donc dans la chanson rap et qui a choisi comme sujet la place des femmes et leur représentation dans le rap.
Donc on suit en fait la continuité de ton coup de cœur musical.
Ouais, voilà, c'est ça.
Quand tu veux.
La scène féminine élargit son spectre de Shy à Meryl en passant par Loose and the Yakuza. Entre parenthèses, oui. Néanmoins, le règlement se trompe quand il affirme qu'on ne peut pas dire que le rap soit sexiste vu que de plus en plus de femmes se mettent à rapper. En effet, il n'a qu'à écouter les paroles de Meryl dans Inanimé qui déclare « Je défendrai aucune de ces putes, j'ai la fléminisme ». Il faut donc ici distinguer la féminisation de la scène rap et le caractère féministe du rap. En effet, certaines femmes dans le rap ne sont pas forcément féministes. Elles sont même anti-féministes parfois et participent à renforcer une vision masculiniste des femmes. Donc, pas top peut-être, Meryl, en termes féministes. Même s'il serait intéressant d'en discuter avec elle pour connaître sa vision des choses.
Merci beaucoup Emmanuel pour ce partage d'opinion en fait que tu as écrit il y a un an et demi, il me semble. Exceptionnellement, comme c'est aujourd'hui le 8 mars, la journée du droit des femmes, est-ce que tu pourrais nous dire deux mots sur ce texte et peut-être sur la pensée et l'opinion que tu as aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Alors déjà, je dirais un petit disclaimer, parce que c'est toujours délicat quand on est un garçon de parler des femmes dans une discussion féministe. On se sent pas très légitime. Et là, en effet, c'est important aussi de dire que j'ai partagé une opinion qui m'est propre. Je prétends pas dire une vérité générale. Secondo, quand même, pour revenir sur Meryl, c'est aussi une opinion sur Meryl. Finalement, je sais pas ce qu'elle pense de ce que je pense. Je le saurai probablement jamais. Mais en tout cas, le petit extrait que j'ai cité dans ce court passage de mon article, où elle dit qu'elle a la fléminisme, c'est hyper intéressant. Parce que par ce jeu de mots, en fait, elle dit qu'elle se désolidarise d'un certain mouvement féministe, en tout cas, si ce n'est du mouvement féministe.
Le truc, c'est que moi, ce que j'allais te dire là, c'est que du coup, le féminisme, j'ai l'impression qu'il est pluriel, et que du coup, peut-être qu'elle, elle se désolidarise d'une forme de féminisme militant, qui est qu'on va descendre dans la rue, ou on va faire des actions, etc. Peut-être qu'il y a des femmes qui ne sont pas féministes, c'est-à-dire qu'elles ne rentreraient dans aucun type de mouvement féministe, aucune manière de penser féministe. Mais est-ce qu'on peut vraiment ne pas être féministe ?
Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une question qui appartient aux femmes. Moi, je pense qu'en tant qu'homme, ce qu'on doit faire, c'est réfléchir à nos propres comportements, constatant qu'il y a ce mouvement féministe.
Donc pour toi, il n'y a pas d'homme féministe.
Bah ça, c'est une opinion aussi qui est très particulière à moi. C'est qu'en effet, je pense que c'est déplacé pour un homme d'être féministe. Parce que c'est aux femmes d'être féministes. Mais en revanche, ça ne veut pas dire que les hommes ne doivent rien faire.
Mais est-ce que, par exemple, si on est un homme, je sais pas, moi je suis pas un homme, mais est-ce que si on est un homme et qu'on est pour l'égalité homme-femme en termes de salaire dans les entreprises, par exemple, ou au travail, est-ce qu'on est, on rentre pas dans un féminisme puisqu'on dit, pour moi ça me paraît totalement normal en tant qu'homme que ma femme ou n'importe quelle femme qui a le même statut et le même travail que moi soit payée de la même façon.
Oui, mais alors de là à dire que t'es féministe, pourquoi pas, en effet, tu vois, je réfléchis avec toi, parce que, après tout, tu vas dans le sens d'une revendication féministe, tu pourrais même aller avec une femme dans le bureau d'un manager ou d'un RH qui décide du niveau des salaires, et dire, ben voilà, je suis d'accord avec elle, comment ça se fait qu'il y ait cet écart-là? Ok, c'est juste que dans mon esprit, avant que tu mentionnes cet exemple qui remet un peu en question ce que je pensais, je me disais que, tu vois, en tant qu'homme, t'acceptes ces revendications qui sont légitimes, par exemple en termes de salaire, mais de là à te revendiquer féministe, pour un homme, je trouve ça bizarre d'aller manifester contre d'autres hommes au même titre que les femmes.
L'œuvre phare. Tableau, roman, film ou encore pièce de théâtre, de quelle œuvre vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je vais vous parler de La Recherche de Proust.
Ok. Allons-y. Qu'as-tu à dire ? Est-ce que déjà tu peux nous présenter un peu cette œuvre avec un grand O pour
ouais,
le coup ?
Ouais, alors déjà, j'ai pas lu toute La Recherche du Temps Perdu de Proust, qui est une œuvre au même titre que La Comédie Humaine et une œuvre de Balzac. Donc une œuvre en plusieurs livres, en plusieurs tomes. J'ai lu les trois premiers ou les deux premiers et demi, quoi, on va dire, donc qui sont dans l'ordre du côté de chez Swann, puis à l'ombre des jeunes filles en fleurs, puis du côté de Guermantes. Ce qui me touche particulièrement chez Proust, et notamment dans le tome du côté de Guermantes, qui est un petit peu le passage à l'âge adulte de Proust, l'étape où il découvre le monde, à savoir le monde mondain. Il commence à fréquenter des salons, il s'est un petit peu éloigné, détaché de ses amours d'enfance. Il passe son temps, en fait, du côté de Guermantes, à décrire la société qu'il contemple, qu'il fréquente. Alors, c'est un moment où il vient de revenir à Paris, et où il commence à fréquenter les Guermantes, qui sont donc une famille aristocrate, me semble-t-il, plutôt que bourgeoise. C'est les deux grandes catégories qui dominaient la société à l'époque. Et c'est très intéressant de voir comment Proust, en fait, à la fois semble critiquer, tout simplement, des gens qui font du théâtre, quoi. Donc qui disent pas forcément ce qu'ils pensent, qui sont hypocrites, qui sont très maniérés, qui versent complètement dans l'apparence. Donc il va par exemple parler d'un moment où il est au théâtre et où il évoque une loge en fait, qui est composée de personnes importantes, et il dit que c'est une baignoire. Donc il dit au sein de sa baignoire, telle personne qui était probablement d'ailleurs une guermante, se pavanait, etc. Et donc voilà, c'est très intéressant de voir l'équilibre en fait dans lequel il est. À la fois il semble critiquer, en même temps il y prend part, puisque Proust aussi était très certainement une personne qui se comportait un peu de la même manière, c'est-à-dire de manière un petit peu hypocrite, extrêmement aussi dans le jugement finalement. Et j'ai choisi cette œuvre aussi parce que de manière beaucoup plus personnelle, j'aime bien la question que Proust aborde, à savoir celle du temps. Donc voilà, j'aime bien, moi-même parfois je me dis que je devrais plus écrire par exemple, sur des moments de la journée, des pensées que je peux avoir.
Souviens-toi. Emmanuel, on arrive maintenant à la toute dernière étape de notre émission, qui est celle de la bribe de phrase. C'est-à-dire que comme à tous les invités qui passent parmi nous, je vous demande en fait d'être à l'écoute autour de vous, de bribes de phrases, de fragments, de petites histoires entendues dans les transports, dans des lieux publics en fait. Et pourquoi tu as choisi cette phrase et pourquoi elle t'a surprise, pourquoi elle t'a choqué peut-être ?
Alors, je pensais à une phrase que j'ai entendue, à un dîner que je prenais. Ça devait être une table à côté de moi, j'étais dans un resto un petit peu huppé de Paris. Et quelqu'un a dit, c'était un homme, a dit du coup, les politiciens sont égoïstes et c'est bien légitime. Et j'ai trouvé ça formidablement intéressant parce que, bref, ça m'a fait réfléchir parce que déjà je suis pas forcément d'accord avec la première partie de la phrase, les politiques sont égoïstes. Je sais pas s'ils sont seulement ça, de là à dire qu'ils le sont pas du tout, je serais pas d'accord non plus. Mais je sais pas s'ils sont seulement ça. Et ensuite la seconde partie de la phrase est un petit peu interrogeante quoi. Et c'est bien légitime. Donc voilà, on peut y réfléchir. Disons qu'un politique est égoïste, ça veut dire qu'il va faire passer ses intérêts avant ceux de ses soutiens politiques, par exemple, qu'il va peut-être faire des coups bas, des coups dans le dos à des gens qui l'ont soutenu, à des gens à qui il doit des dettes.
C'est un milieu de pouvoir qui est quand même connu pour ça.
Ouais, bien sûr. Pour les coups bas, en tout cas. Et de l'autre côté, il est égoïste peut-être en privilégiant ses intérêts par rapport à ceux de la nation, par exemple des intérêts de réélection. Et enfin, l'autre partie de la phrase... et c'est bien légitime, du coup on se dit, mais en quoi c'est légitime tout ça ?
Est-ce que tu t'es retourné pour lui dire, monsieur, faut qu'on parle en fait ?
Non, du tout, mais ça m'a fait sourire quoi. Et finalement, en réfléchissant, tu viens de dire là, tu vois que c'est connu pour être comme ça ce milieu, la politique. Et ben, du coup, si c'est comme ça, si les règles du jeu sont celles-ci, c'est-à-dire des règles d'attaque, on en parlait tout à l'heure, qui imposent aux parties prenantes d'être sur leur garde, de faire attention à leur historique pour pas qu'un scandale réémerge. Eh bien, peut-être que du coup, puisque les règles du monde politique sont comme ça, eh bien alors il est légitime d'agir en fonction de ces règles, qui imposent finalement un égoïsme. Puisque si tu penses pas à ta gueule, entre guillemets, quand t'es un politicien, eh bien tu te prends des coups de poignard dans le dos, tout simplement.
Et ben on va finir là-dessus. Merci beaucoup Emmanuel d'avoir été la voix enchantée du jour. Et on se retrouve le mois prochain à 18h sur Radio Campus Paris.